deux, trois, cinq dauphins évoluent lentement autour du zodiaque. Leur chant est triste, et Adélis observe leur danse, les corps de plusieurs d'entre eux déjà échoués le long de la côte. Les dauphins viennent mourir en masse avant même l'arrivée de la vague meurtrière. Il n'en avait jamais vu autant. Son regard se tend vers le large, son ventre est noué. Entre lui et l'horizon, il y a Monte Cristo, le quartier de pêcheurs dans lequel il a grandi. Et sur Monte Cristo, il y a sa sœur et son père. Il y a aussi des bateaux qui se pressent et se cognent, des barques et des embarcations de fortune sur lesquelles les gens tentent de contourner les artères de la ville pour rejoindre la terre ferme directement sur un promontoire. La sirène continue de leur vriller les tympans. Parfois, elle s'arrête et la voix prend le relais, la voix qui emplit tout l'espace et conseille à chacun de ne pas se charger et de rejoindre les parties hautes de la ville. La voix qui rappelle qu'une digue de béton sous-marine a été coulée et ceint la ville depuis plusieurs années pour protéger Marseille d'un tsunami trop important. Adélis vise Monte Cristo. Il délaisse les dauphins et tire son téléphone de dessous son t-shirt. Enoch répond dès la première sonnerie et ça rassure instantanément Adélis.
T'es où, microbe ?
En route pour Monte Cristo.
T'as pas suivi la météo ?
Arrête, c'est pas drôle.
J'essayais pas d'être drôle.
Nina est là-bas. Et mon père.
Merde.
Le moteur du Zodiac pétarade dans les oreilles d'Adélis et jusqu'à celle d'Enoch.
Je vais te rejoindre, Adélis. Il faut juste que je tente de récupérer le bateau de mon oncle. Et j'aimerais retrouver Ulysse et Yas d'abord. Après, on ramènera Nina à terre.
D'une petite voix, Adélis explique à Enoch.
Nolan et Bonnie partent pour Paris.
Si elles parviennent à monter dans un train.
Je sais, j'ai eu un message.
Enoch essaie d'avoir l'air détendu, mais l'arrivée du tsunami le met dans un état d'anxiété proche de celui d'Adélis. Il veut à tout prix se montrer courageux. Et généreux surtout, comme Nolan l'a été. Pas comme son oncle. Il raccroche après avoir promis à Adélis de le rejoindre et se retrouve face au Commodore. Seul quelqu'un connaissant bien le Commodore peut deviner son état de tension. Même s'il a l'air comme d'habitude, en pleine possession de ses moyens, une veine bat fort sur sa tempe et un léger flou trouble le bleu de son œil. Il a su avant tout le monde qu'un tsunami de grande magnitude arrivait sur Marseille, car le système de protection de la villa avait été activé. Face à la violence des éléments, il n'y a aucune certitude. Mais le Commodore a plus de chances de garder sa villa que bien des gens de conserver leur appartement en l'état. Devant son bureau, le personnel attend. Certains employés ont déjà fui, mais d'autres espèrent que le Commodore les paiera avant de les laisser partir. Une femme de chambre, les mains crispées sur ses cuisses, lève vers Enoch un visage implorant. Il secoue la tête, ne peut rien pour elle. Il affronte le regard de son oncle.
Je te retrouve sur le terrain d'atterrissage, Enoch.
Hein ?
Tu prends un sac, l'essentiel uniquement.
Mais non !
Comment ça, non ?
Je ne pars pas !
Le Commodore ne bouge pas d'un centimètre. Ses yeux transpercent Enoch, qui refuse de céder un pouce. Enoch a encore grandi, pensant. Ça le rend fou. Il va bientôt le dépasser. C'est drôlement agaçant. Surtout lorsqu'il décide de ne pas l'écouter. Le Commodore sent que tout pourrait lui échapper soudain, et il n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit.
Je te préviens, Enoch. Si tu ne m'obéis pas, je t'embarque de force. Ah ouais ? Et vous allez faire comment ? Ne me provoque pas comme un enfant. J'ai des gens à mon service qui sauront te contraindre.
Enoch pense à tout ce qu'il a su faire sans que son oncle puisse l'en empêcher. Il se souvient du sauvetage des réfugiés, il y a quelques semaines à peine, et l'ombre d'un sourire menace sur son visage, malgré la situation terrible. Comme s'il l'avait entendu penser, le Commodore plisse les yeux et siffle entre ses dents, de manière à n'être entendu que de son neveu.
Tu crois que j'ignore quoi que ce soit de tes petites affaires ?
Tu penses vraiment que je ne connais pas tes jolis exploits humanistes ? Tu me crois aussi naïf que Fassinger ?
La tête baissée pour cacher son étonnement,
Le jeune homme encaisse avec effroi. Comment le Commodore a su pour le débarquement des migrants? Ce type voit tout, c'est tout. Enoch serre son téléphone au fond de sa poche, se demande si son oncle y a introduit une puce ou s'il paie des gens pour le surveiller. Il penche pour la deuxième solution, mais la première n'est pas à exclure pour autant. Je parie que tes petites amies t'ont planté pour filer à la gare? Enoch relève la tête, ses doutes évanouis. Le Commodore a accès à son smartphone, et peut-être a-t-il fait suivre certains de ses amis. Lui-même, sans doute aussi. Le sourire du Commodore est carnassier. Ton amie Nolan n'a pas tout à fait compris à qui elle avait affaire. Elle semble avoir oublié qu'elle travaille pour moi. L'adolescent ne trouve rien à répliquer. Il sent les vibrations dans sa main. Ses meilleurs amis, Yas et Ulysse, ne vont pas tarder à arriver. Ils ont quitté leur foyer en catastrophe. Il espère que Nolan et Bonnie réussiront à monter dans un train. De là où il est, il ne peut pas les aider. Quant à Adélis, Enoch tremble à l'idée qu'il soit seul sur l'eau, alors que le tsunami ne va pas tarder à déferler. Et Nina, c'est tout Monte Cristo qui va être submergé. Absorbé dans ses réflexions, Enoch ne voit pas le personnel disparaître, s'enfuir vers la sortie pour tenter de gagner au plus vite les zones protégées en hauteur, les points culminants de la ville où sont recueillis les habitants en masse par ce qu'il reste des pouvoirs publics, auxquels s'ajoutent les humanitaires bénévoles. Mais une jeune femme en tenue de service s'approche pour annoncer « Vos amis sont là !» Le Commodore redresse la tête, du feu dans les iris. Il plisse les paupières en dévisageant par l'encadrement de la porte les deux adolescents essoufflés qui font irruption dans le hall. Leurs torses sont bardés de sangles pour pouvoir s'attacher l'un à l'autre. Technique connue désormais pour ne pas être séparés durant les épisodes de tempête, ou comme aujourd'hui, lors de tsunami. Enoch se précipite à leur rencontre, malgré la fureur évidente du Commodore. Il saisit le jeu de sangles que lui tend Yasmina et les enfile sur son propre torse. Aucun mot n'a été échangé, mais il se sourit, soulagé d'être ainsi armé pour vivre ou mourir ensemble. « Là où nous allons, tu n'auras pas besoin de ça !» Les trois adolescents se tournent vers le Commodore d'un seul mouvement. « Bonjour, monsieur !» balbutie Ulysse, qui a toujours été très impressionné par l'autorité de l'homme. Il ne l'a pas croisé souvent, mais il est fasciné par sa puissance, la façon dont il promène son regard sur le monde comme s'il lui appartenait. Le Commodore ne répond pas. Son regard n'a pas quitté Enoch. « Bonjour, monsieur !» insiste Yasmina, beaucoup moins amène que son amie. L'homme consent à poser les yeux sur l'adolescente. Il détaille sa chevelure épaisse, frisée, difficilement domestiquée par une barrette contre son crâne, la dégringolade involontairement artistique le long de ses joues aux pommettes hautes et les quelques boucles qui frôlent les longs cils noirs. Yas ne scie pas. Elle prend la main d'Ulysse pour le rassurer et celle d'Enoch pour plusieurs raisons. Énerver le Commodore, lui indiquer que leur lien d'amitié est solide et leur amitié féroce. Et puis aussi pour sentir la douceur de la peau d'Enoch, ses doigts pressés contre sa paume, le tressaillement qui vient lui dire que l'amitié ne suffit plus en ce qui la concerne. Si le Commodore est agacé par le geste de Yas, il n'en montre rien. Il a cette maîtrise de soi qu'Enoch envie parfois. « Je dois me répéter ?» Enoch secoue la tête. « Je ne viens pas, je reste avec mes amis. » Par peur de plier sous l'autorité de son oncle, Enoch fixe du regard sa main dans celle de Yasmina, remonte jusqu'à son cou, son visage fin, furieux. Il sourit à Ulysse, qui lui rend son sourire avec la confiance de l'amitié sans condition, à la vie et à la mort. Du coup, Enoch ne voit pas son oncle tourner les talons et rentrer dans son bureau, pas plus qu'il ne l'entend marcher jusqu'à sa table de travail, puis ouvrir l'un des tiroirs. Il ne voit pas ce qu'il y cherche, ce qu'il y trouve. En revanche, quand Enoch relève enfin la tête pour observer son oncle, il comprend très exactement ce qu'il se passe et son sang se glace.